Comme c'est une espèce de fou, il voulait que je travaillasse, et il m'en ôtait les moyens. Souvent, lorsqu'il arrivait et qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'avait rien à faire, il me disait « Habille-toi et sortons ». Je lui représentais que j'avais à finir telle ou telle chose. Mais il était sourd aux observations raisonnables. Il ne me faisait pas sortir par amitié, mais par ostentation, pour qu'on dise dans le voisinage qu'il me rendait heureuse, et plus encore, pour me montrer. Car ce monstre avait la sotte vanité d'être glorieux de mon peu de figure. On le voyait se gonfler quand il rencontrait quelques-uns de ses amis ou de ses connaissances en leur disant « Voilà ma femme !» Ce mot était prononcé comme s'il eût dit « Voyez, admirez, considérez l'adresse que j'ai eue d'avoir cette créature malgré son père. Suis-je un homme fin, rusé ?» Il racontait aussitôt tous les obstacles qu'il avait eu à surmonter. Il nommait mon père. Il tirait vanité de ses talents. Ensuite, il en disait un mal infini, s'exprimant tout à la fois comme un homme glorieux et honteux d'être son gendre. Je souffrais cruellement, mais je commençais à savoir par expérience qu'il fallait me taire. Si j'en avais douté, j'en aurais été bientôt convaincu de la manière la plus cruelle. Il y avait 5 mois que j'étais la plus malheureuse des femmes et j'étais enceinte de 4 lorsque j'éprouvais un traitement inouï. Moresquin se faisait coiffer auprès du feu où l'on faisait la cuisine. Je le priais de s'éloigner un peu à cause de la propreté qui le demandait. Il ne jugea pas à propos d'avoir égard à ma prière. Au contraire, il s'approcha davantage et m'empêcha par là d'avoir l'œil à ce que l'on faisait cuire. Je pris mon parti et j'allai déjeuner avec des poires cuites. Un instant après, le pot bouillant trop fort s'en alla. Rien de plus naturel. Cependant, Moresquin, qui tenait tout le feu, se mit en fureur. Il laissa le pot tel qu'il était, mais il déclama contre ma gourmandise de manger une poire cuite. Il me traita de chatte, de friande, qui avait tous les défauts des catins, en employant un plus vilain mot, et après une longue kyrielle d'injures, il m'ordonna de venir retirer le pot. Je passai comme je pus, sans répliquer. Et, tandis que je lui obéissais, il me donna un coup de pied dans les reins. Puis, ne me trouvant pas assez maltraité, il se leva et m'en donna un second si violent que depuis cet instant jusqu'au terme prématuré de ma grossesse, j'ai souffert de douleurs continuelles. Le garçon perruquier me tira de ses mains, car il aurait continué de se livrer à sa rage, et j'eus l'humiliation de me voir avilie devant un homme de cette espèce qui, par son état, pouvait répandre le bruit de mon malheur dans 50 maisons. 3 semaines après cette cruelle scène, comme je souffrais beaucoup, puisque j'étais blessé, il s'en prit à moi de ce que j'étais languissante. Il me dit les choses les plus dures. Je pleurais. Il me tordit la chair des bras en feignant de rire. Je voulus m'éloigner. Il me retint et me fit asseoir à côté de lui en me donnant un coup du côté de la main sur le cou, ce qui me fit un mal infini. Il m'assura qu'il avait cassé le col à un homme de cette manière, étant commis aux aides. Et je ne savais en vérité si je n'en avais pas autant. Mais il ne me laissa pas à mes réflexions. Un torrent d'injures succéda. Je ne m'en rappelle qu'un trait, parce qu'il me révolta et qu'il peint son caractère. Il me dit que j'étais pire que les catins, toujours en employant un plus vilain mot, parce que ces sortes de femmes soutenaient leurs amoureux, il dit un terme révoltant, et que moi, je détruisais sa maison. Je pleurais beaucoup, et je tâchais de le toucher par ma douleur. Il n'en parut que plus dur. À la fin, je lui dis en sanglotant, « Vous voulez me faire mourir de chagrin, comme votre première femme ?» À ce mot, transporté de fureur, il me donna un coup de tenaille sur les mains, des coups de poing sur la tête et un entre autres si fort sur une fluxion que j'avais alors qu'il me causa un abcès qu'on a été forcé de faire aboutir par la joue après mes couches. Tout mon lait se porta là. Qu'on imagine quelle douleur j'ai dû sentir. J'ai été plus de 3 ans dans les souffrances. Encore ne suis-je pas entièrement guéri. Je m'en ressentirai le reste de mes jours. Malade, languissante, je n'étais plus pour ce monstre qu'un objet de dégoût. Il me réduisit dans le plus dur esclavage. Je devins sa servante, et la servante fut ma maîtresse. Et telle fut l'extrémité incroyable à laquelle je fus réduite, qu'on m'a vu décroter les souliers de la domestique et du maître, le bâton levé. Moresquin me forçait à m'acquitter de ce bas service. Il me frottait le nez de la brosse noire, si l'ouvrage n'était pas aussi parfait qu'il le désirait, et, ainsi barbouillé, je devenais l'objet de la dérision du maître et de la servante. Observez que j'étais alors enceinte, pouvant à peine me remuer, défigurée par la douleur et par ma joue enflée qui n'avait pas encore abouti, plongée dans la plus amère douleur, sans appui, sans soutien, brouillée avec mon père, trahie par ma mère. L'imagination s'épouvante et l'on frémit. Ce n'était pas encore l'extrémité la plus cruelle. Moresquin connaissait 2 hommes aussi vils et aussi méchants que lui, tous les deux ennemis jurés de M. Saxancourt. L'un était un ivrogne crapuleux, mais avait quelque talent. Il était garçon et se nommait Kriher. L'autre était Jean de Nivelle, ce mamonnet dont j'ai déjà parlé 2 fois, alors marié à une femme qui l'a rendue malheureuse et qu'il venait de forcer à coups de bâton à se donner à un homme dont elle avait été aimée avant son mariage. Ce furent ces 2 hommes que Moresquin invita pour leur faire voir l'humiliation de la fille de leur ennemi. Je servis ces 3 monstres à table, debout, tandis que la servante était assise avec eux. Il ne me fut permis de manger qu'après. Le vil Kriher, le plus vil Jean de Nivelle, firent des gorges chaudes de ma triste situation. Moresquin voulut qu'il me tutoyasse. Je ne souffris pas les autres choses, si ce n'est une infamie que Moresquin me fit par surprise et qui pensa me causer la mort. Il en est une autre à laquelle je me refusais, malgré les coups de baguette, celle de tenir le pot. Je n'ose achever. Mais ces 3 crapuleux, ayant fait autant d'ordures qu'ils en avaient dites, je fus forcé de les nettoyer. Jamais je n'ai vu de scène si cruelle, et si elle était à recommencer, je préférerais la mort. J'en fus malade 2 jours, pendant lesquels Moresquin, à chaque repas, rappelait ses infamies crapuleuses, en riait, en faisait rire sa servante et quelques libertins, ses dignes amis. J'en frémis encore. J'accouchais avant le terme fixé par la nature, et ce fut une suite de traitements cruels que j'éprouvais. Je croyais mourir. Le ciel, qui enlève à de tendres époux des épouses heureuses et chéries, me conserva des jours abreuvés de douleur. Je languissais, je souffrais. J'étais dans une situation affreuse par le dépôt que me fit mon lait sur la joue maltraitée. Mais je ne mourais pas. Moresquin s'impatientait de me voir languir et de me nourrir dans cet état. Il délibéra de m'envoyer à l'Hôtel Dieu où, disait-il, je serais bientôt troussé. Mais une réflexion le retint. Il pensa que ma mort serait bien plus assurée s'il me gardait chez lui, et les ordres déjà donnés furent révoqués. Un instant après cette révocation, il m'accabla d'injures en me traitant de vermine et m'accusant de n'être malade que parce que j'étais atteinte d'une maladie honteuse. Il s'enflammait lui-même par les reproches infâmes qu'il me faisait, et sa fureur étant parvenue au comble, il eut la barbarie de me frapper, de me tordre la chair, pour la raison que j'avais eu l'audace de me plaindre. « Crève ! S'écriait-il, je n'entends pas me ruiner pour une G qui ne m'a rien apporté. » Je lui avais apporté la malédiction de mon père, c'était une dot digne de lui. La garde que j'avais alors existe. Elle peut dire dans quelle situation elle me trouvait en rentrant. car dès qu'elle avait tourné le dos pour exécuter ses ordres, il se donnait l'affreux plaisir de me maltraiter. L'accoucheur pourrait en dire autant.
Qui le croirait ? Je me remis. Les soins de la garde qui m'affectionnait me rétablirent. Et lorsque mes forces commencèrent à revenir avec quelques couleurs, l'odieux Moresquin reprit pour moi une brutale passion.
Il témoignait ses désirs de la manière la plus obscène. Il me forçait de me parer, de recevoir. J'éprouvais la plus cruelle violence un soir après souper qu'il avait invité trois de ses amis pour faire sa noce, disait-il. Pendant le repas, les propos les plus libres et en même temps les plus dégoûtants furent tenus par Moresquin. Ses vils amis souriaient, mais répondaient avec une sorte de pudeur. Enfin, lorsqu'on eut vidé quelques bouteilles et qu'on fut au dessert, il saisit l'instant où j'étais levé pour changer l'assiette. Il me suivit doucement dans la cuisine, à côté de laquelle était son lit. Et dès que j'eus posé ce que je portais, il me saisit de la manière la plus obscène, me renversa si brutalement que je crus avoir les reins cassés et voulut s'assouvir. Je résistais. Il tira une épingle de mes cheveux et me l'enfonça dans le bras. Je cédai à cette attaque de cannibale. Qui peut raconter tout ce qui se passa? Les discours de Moresquin, les réponses et les rires de ses amis. Après un quart d'heure entier d'humiliation, je fus obligé de venir achever de servir et d'écouter les horribles récits du monstre.